Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 27 janvier. Nous reviendrons sur le premier tour des élections municipales à Francheville. Les pompiers interpellent une nouvelle fois la population. Ils ont prévu de se mobiliser une nouvelle fois devant le siège de la métropole aujourd'hui. Une fuite de matière dangereuse dimanche, au petit matin, sur un site Céveso, au sud de Lyon. L'inauguration des rails de la mémoire pour rendre hommage aux victimes de la Shoah, place Carnot. La Fondation Abbé Pierre devient la Fondation pour le logement des défavorisés. Et puis nous parlerons également dans cette édition d'un fléau, le chemsex, un phénomène malheureusement en pleine expansion et qui n'a jamais autant causé de victimes. Quel est le rôle des élus locaux dans la lutte contre cette drogue? Explication avec Charlie Gouillet. Et puis nous parlerons également du Bocuse d'Or, c'est la deuxième journée. Le CIRA se termine ce soir.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les élections municipales partielles à Francheville à la suite de la démission du maire LR Michel Rantonnet en octobre dernier. 4 candidats au premier tour pour briguer le poste et ils seront encore 4 au second tour, sauf fusion de liste. La candidate Ensemble pour Francheville, LR, Claire Pouzin, arrive en tête au premier tour avec près de 41% des suffrages. Elle est suivie par Caroline Paris, Vivre Francheville, divers centres, 22,3% des voix. La candidate écologiste Hélène Duvivier, Francheville Respire, est seulement 3 troisième avec moins de 20% des voix, 19,2. Olivier Roche d'Hiver Droite et sa liste Nous Franchevillois est quatrième avec 17,9%. Le taux de participation a été de 46,2%. Le second tour aura lieu dimanche prochain. Les pompiers interpellent la population. Ils se mobiliseront une nouvelle fois ce lundi devant le siège de la métropole, l'un des principaux financeurs du SDMIS, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, alors que les élus seront réunis pour le débat d'orientation budgétaire. Depuis le 1er octobre et le début de leur grève administrative, les pompiers ont multiplié les actions pour demander plus de moyens. Ils réclament notamment un plan pluriannuel de recrutement et plus de pouvoir d'achat. En décembre, les élus avaient voté une nouvelle augmentation de 0,5% de la participation de la métropole au SDMIS. Les élus du département avaient fait de même. Une fuite de matière dangereuse dimanche vers 9h du matin sur un site Céveso au sud de Lyon, selon les informations du Progrès. La fuite concerne l'usine Elkem Silicone, située avenue des Frères Perret à Saint-Fons. Une vingtaine de personnes travaillant sur le site auraient été confinées pendant l'intervention des pompiers. Des écrans d'eau ont été mis en place par les pompiers afin de limiter la propagation des vapeurs. Le produit qui s'est échappé, c'est du chlorosilane. Cette usine Elkem, classé seuil haut et situé en plein cœur de la vallée de la chimie, a été mise en demeure à plusieurs reprises par la préfecture du Rhône. Elkem est aussi dans le collimateur du collectif Notre Affaire à tous depuis 2022. Ce collectif a déposé un référé ciblant l'entreprise, suspectée d'infraction à la réglementation des installations classées. Quelques litres de produits se seraient échappés dimanche. Les activités de l'usine ont pu reprendre en fin de matinée. Notez qu'un exercice de sécurité civile se tiendra sur le site Sciences Co à Saint-Fons demain matin. Le nouveau système d'alerte et d'informations par diffusion cellulaire est testé auprès de la population se trouvant à Fézin. Appelé FR Alerte, ce dispositif permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l'informer des comportements à adopter pour se protéger. En l'occurrence, l'exercice demain n'exigera aucune action particulière.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
L'antisémitisme est un poison pernicieux qui doit être combattu avec force partout, à chaque instant. Les Juifs doivent pouvoir vivre en paix en France, comme ailleurs, au négationnisme comme à l'antisémitisme qui le nourrit. Nous ne céderons rien, c'est ce qu'a déclaré hier Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, participait à l'inauguration des rails de la mémoire, une œuvre signée des architectes du studio Blazing Borchardt. Une structure de quelques 70 tonnes constituée de 1173 rails représentant les 1173 kilomètres qui séparent Auschwitz de Perrache. La gare lyonnaise, il faut le rappeler, était le point de départ des convois à destination de Drancy et des camps de la mort. Érigé à Lyon, un mémorial de la Shoah était une idée de Benjamin Orenstein, doyen de la dernière poignée de Lyonnais rescapés de la Shoah. Il est décédé en 2021. L'amicale des déportés d'Auschwitz-Birkenau, les fils et filles des déportés juifs de France et le CRIF Auvergne Rhône-Alpes se sont chargés de la mise en œuvre. L'amas de rails ne se limite pas à évoquer la mémoire des 6100 hommes, femmes et enfants de notre région, exterminés pour le seul motif qu'ils étaient juifs, mais il rend aussi hommage aux 6 millions de victimes de la Shoah, a expliqué Jean-Olivier Viouf. Des enfants ont d'ailleurs chanté et allumé 6 bougies lors de cette cérémonie, 6 bougies pour rendre hommage aux 6 millions de juifs exterminés dans les camps de la mort. La fondation Abbé Pierre devient la fondation pour le logement des défavorisés. Le changement de nom a été publié samedi au Journal officiel. La démarche avait été initiée il y a plusieurs mois par la fondation. Une procédure un peu longue car il s'agit justement d'une fondation. L'Abbé Pierre est visé par 33 accusations de violence sexuelle. Il est décédé en 2007. Son nom devrait avoir disparu de tous les supports de communication à la mi-mars.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Le tout premier événement à Lyon pour sensibiliser au chemsex a été organisé par la ville de Lyon. L'occasion de parler de cette pratique qui consiste à prendre de la drogue pendant les rapports sexuels, exposant ainsi les usagers à des dangers considérables. Un phénomène malheureusement en pleine expansion et qui n'a jamais causé autant de victimes qu'aujourd'hui. Le reportage de Charles Aiguillet.
Augmenter le désir, le plaisir et les sensations, c'est ce que recherchent les pratiquants de chemsex en se droguant pendant leurs rapports. Souvent associé à des plans à plusieurs, le chemsex se répand et fait de plus en plus de morts, bien que les études sur le sujet restent limitées. Les homosexuels étant particulièrement concernés, l'essor des applications de rencontres a joué un rôle clé dans la popularisation de l'usage de drogue pour le sexe. La professeure Hélène Donadieu, médecin, hépatologue, addictologue et chef des services d'addictologie au CHU de Montpellier, nous éclaire sur ce phénomène.
Le chemsex, c'est un usage de substances psychoactives ou de prod, comme disent les usagers, en contexte sexuel. C'est principalement fait par une communauté qu'on appelle des HSH, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et en gros, ça diffuse en France depuis les années 2000, mais avec une nette augmentation à partir de 2004-2010. Et une grosse bascule sur la diffusion au moment du premier confinement. Il y a des risques au moment de la pratique liés à l'usage de substances et les conséquences des substances elles-mêmes. Mais il y a également, sous l'emprise des substances, les risques de violences sexuelles ou autres subies ou commises. Et puis, à moyen terme et à long terme, il y a les conséquences psychosociales majeures avec les conséquences sur la santé mentale, sur la vie familiale, la vie professionnelle et les conséquences infectieuses, évidemment, sur des pratiques sexuelles, plutôt dans un contexte de multipartenariat. Alors, il y a différents types de drogues. Il y a la classe des psychostimulants avec les cathinones et la cocaïne. Et puis, il y a la classe des substances qui vont désinhiber, faire de l'euphorie, ce qu'on appelle le G, qui est la plupart du temps du GBL. Et puis après, il va y avoir d'autres substances qui peuvent être utilisées de façon un peu moins fréquente, comme la kétamine, et des substances utilisées ensuite pour gérer les descentes après des plans un peu longs.
En tant que professionnel, comment est-ce que vous allez accompagner les patients qui pratiquent le chemsex ?
Alors, on accompagne les personnes qui pratiquent le chemsex et qui le souhaitent de manière pluriprofessionnelle, c'est-à-dire avec différentes postures, les associations communautaires bien entendu, mais des médecins, addictologues, psychiatres, des psychologues, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, des sexologues, beaucoup de monde, et on a besoin d'être très nombreux pour pouvoir accompagner des usagers de chemsex qui ont un usage problématique.
Le fléau du chemsex réside aussi dans la question du consentement, avec 43% des pratiquants ayant déjà eu des rapports non consentis et 18% ayant été drogués sans leur accord. Le problème du chemsex est donc urgent et mérite d'être davantage mis en lumière, comme le souligne Jean-Luc Romero-Michel, président fondateur d'élus locaux contre le sida et adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
Quand un phénomène peut toucher aujourd'hui jusqu'à 30% des homosexuels, je pense que c'est une question de santé publique et que c'est le rôle d'abord des pouvoirs publics de poser cette question. Cette affaire dure depuis quand même maintenant une quinzaine d'années. Il y a en France un professeur qui a fait un rapport qui est dans le bureau des différents ministres de la Santé. Rien n'avance. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui meurent régulièrement parce qu'ils n'ont pas les informations, parce qu'ils ne savent pas les produits qu'ils prennent. Et donc, il faut faire un minimum d'informations, un minimum de prévention et puis donner les moyens aux associations de pouvoir s'occuper des personnes qui, parfois, sont dans la difficulté. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, des choses qui existent, mais il faut permettre d'avoir l'information. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire, nous, à Paris, en ayant une carte interactive qui permet à tous les chemsexeurs, quand j'ai besoin d'une seringue, où aller, si j'ai besoin, parce que je veux arrêter de me soigner, où aller, si j'ai besoin d'un groupe de parole, où aller. On voit que tout ça peut être fait, tout ça peut être simple, mais il faut une volonté politique et il n'y en a pas aujourd'hui.
À Lyon, le chemsex est également présent et nécessite une régulation. Comme l'explique Céline Delaurance, adjointe au maire de Lyon en charge de la santé, la prévention et la santé environnementale.
C'est important à la fois pour ne pas faire un tabou, que ce phénomène qui a pour conséquence des morts puisse être traité de manière exhaustive, avec une transparence sur les tenants, les aboutissants, les déterminants et aussi les pistes d'action. Et c'est sensibiliser, mais c'est surtout aussi se réunir entre les différents professionnels qui interviennent autour des publics concernés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette finalement, dans la prise en charge, et puis pour intensifier ce qui marche et en tout cas se mettre d'accord sur une forme de plan d'action pour sauver un maximum de vies.
Vous parlez de plan d'action, est-ce qu'il y a déjà des idées de mesures à mettre en place ?
Je pense qu'on ne sait même pas déjà tout ce qui est réalisé sur le territoire. L'idée est d'abord de voir ce qui se fait, de voir quels sont les besoins, de faire un état des lieux et un diagnostic partagé des besoins et des enjeux et identifier là où il y a besoin d'aller plus loin. Et après, il y aura bien évidemment à faire un tour de financeurs, un tour de la table. Nous l'avons vu, il y avait l'Agence régionale de santé, la ville de Lyon évidemment, mais on trouvera bien évidemment d'autres partenaires pour soutenir cette thématique en fait.
Pour mieux comprendre les risques du chemsex et obtenir du soutien, plusieurs associations telles que le Griffon ainsi que les services médicaux permettent d'accompagner les personnes concernées en offrant écoute, prévention et solutions d'accompagnement adaptées.
Merci Charles Elie. 24 pays en compétition à Eurexpo pour le Bocuse d'Or. Un premier groupe de 12 équipes a concouru hier et 12 autres ce lundi. 5h30 de cuisine pour gagner l'un des plus prestigieux concours culinaires au monde. Les plats sont une figure imposée, poisson et céleri pour l'assiette. Tourte d'épaule de chevreuil et foie gras pour l'épreuve du plateau. Et c'est à l'heure de la clôture du CIRA ce soir que l'on connaîtra le vainqueur. Les supporters singapouriens, suédois et américains ont largement contribué à mettre de l'ambiance hier. Ce lundi verra l'entrée en lice du candidat français, Paul Marcon, fils du chef triplement étoilé de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Hier, le Japon a remporté à nouveau la Coupe du Monde de la pâtisserie, comme en 2023. La France se classe deuxième, comme il y a deux ans. Une surprise, c'est la Malaisie qui remporte le bronze. Les candidats avaient 9 heures d'épreuve avec 3 pièces artistiques, chocolat, sucre et glace, 3 entremets glacés aux fruits, 10 desserts de restaurant, 26 créations sucrées au chocolat, la composition d'un buffet, le tout sur le thème du patrimoine national. Les résultats de sport du week-end en Ligue 1 face au FC Nantes, l'Olympique Lyonnais, longtemps devant au score, a craqué à l'ultime minute pour ne rapporter qu'un match nul, un partout. L'Olympique Lyonnais rate l'occasion de recoller au top 4 de la Ligue 1. En basket, l'ASVEL a largement dominé la SIG Strasbourg lors de la 17e journée de championnat, une victoire villeurbanaise 95-70. En rugby, Dylan Cretin, le troisième ligne du Loup, va faire partie de la liste des 42 joueurs pour préparer le premier match du tournoi des 6 nations face au Pays de Galles. Ce sera vendredi soir au Stade de France. Il a pris ce week-end la direction de Marcoussi. Notez que ce week-end, le Loup a fait tomber le leader bordelais sur ses terres, 22-20, au Stade de Chaban-Delmas, où il ne s'était jamais imposé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.